Je suis désolée, je pense que je ne parle rien en français ou en espéranto, mais dites-moi si vous souhaitez m'écouter dans ma langue maternelle, finnois, le suédois, ou si vous souhaitez que je m'exprime en norvégien ou en danois. Non, je vais peut-être opter pour l'anglais. J'ai un résumé en trois pages que vous pouvez trouver sur Internet. C'est pourquoi je vais directement commencer par la présentation et je vais lire la plupart des textes. Et ainsi, vous pourrez à la fois lire et entendre les mêmes choses. Ce que vous voyez sur ma première diapo, c'est que les langues aujourd'hui sont tuées plus rapidement qu'à toute autre époque de l'histoire de l'homme. Les estimations les plus optimistes estiment qu'entre 300 langues auront disparu d'ici 2100. Les pessimistes mais réalistes estiment que 10% des langues actuelles orales resteront en 2100 et ne seront pas trop menacées, ou voire 5%. Ou on peut même dire de 40 à 50 langues. C'est ce qui a été estimé par M. Ranout. La raison pédagogique la plus importante pour la disparition des langues est la mauvaise méthode d'enseignement. Les enfants des minorités ou des autochtones sont souvent reçoivent un enseignement dans une langue dominante. Ils ont peu de droits humains linguistiques. Si l'on parle d'un enseignement par soustraction, on voit que c'est la langue dominante qui remplace la langue de la minorité ou autochtone. Ce que nous devrions avoir, c'est l'accès, un enseignement dans la langue maternelle, puis un enseignement de la langue dominante comme deuxième langue. Cela permettrait d'élargir le répertoire linguistique et de permettre un multilinguisme. Et ainsi, on apprend d'autres langues plus facilement. Pourquoi est-ce que les langues disparaissent? Il y a là deux paradigmes. Deux paradigmes qui expliquent cela. Tout d'abord, la mort des langues et deuxièmement, le meurtre des langues. Les langues qui ont été décrites comme des bibliothèques d'un héritage intangible humain disparaissent. S'agit-il là d'une mort naturelle ou d'un meurtre? Si l'on parle de mort, on parle d'une mort naturelle qui disparaît tout naturellement. C'est un peu comme une fleur qui finit par disparaître. Par contre, si l'on parle de meurtre, si ces bibliothèques mentionnées sont assassinées, on parle là d'incendie criminel. Les bibliothèques sont mises à feu. Les systèmes éducatifs, les mass médias, etc., qui participent au génocide culturel et linguistique au terme de la Convention du génocide des Nations Unies. Les langues ne disparaissent pas naturellement comme les fleurs ou ne sont pas assassinées. Les langues sont véritablement assassinées. Elles sont victimes de génocide linguistique. Les systèmes éducatifs les mass médias ont un rôle important à jouer à ce niveau-là.
En la fono, comparable, ni trovas la socian, economian, technico, militan, kai politican sistemon de la mondo non tempa.
Y a-t-il une véritable différence que l'on les considère comme meurtre ou simple mort?
La
langue principale mise en cause est l'anglais. Si les langues ont été tuées, assassinées, on peut analyser les différents agents responsables de cette disparition. Ce sont les systèmes militaires ou techniques qui sont mis en cause. On parle d'un consentement, parfois on souhaite changer de langue, mais nous devons voir ce qu'il y a véritablement derrière ce consentement.
Lorsque des grandes langues sont apprises par soustraction, ces langues peuvent devenir des langues tueuses. Des langues tueuses qui représentent un véritable danger pour la diversité linguistique partout dans le monde. Qu'est-ce donc une grande langue tueuse? Ce n'est pas une caractéristique d'une langue bien particulière, c'est la question de savoir comment fonctionne la langue en relation avec d'autres langues. Chaque langue peut devenir une langue tueuse en relation à une autre langue. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les langues qui s'entretuent, ce sont les relations de pouvoir entre ceux qui parlent les langues qui sont les facteurs décisifs pour ces relations inégales des langues, entre les langues, et qui finissent par faire en sorte que les personnes doivent apprendre des langues par soustraction au prix de leur propre langue. L'anglais est aujourd'hui la langue tueuse la plus importante, mais la plupart des langues dominantes fonctionnent de cette façon, même des petites langues qui ont beaucoup de pouvoir. Par exemple, le hindi, l'espagnol, le français peuvent très bien également devenir des langues tueuses. Il existe donc une hiérarchie cachée des langues. Par exemple, le finlandais peut tuer des langues indigènes, des samis ou d'autres langues minoritaires. Donc toute langue peut devenir une langue tueuse. Toutes les langues orales sont des langues qui sont utilisées par les personnes capables de parler, mais les autres, donc toutes les langues parlées oralement peuvent agir comme langues tueuses vis-à-vis, par exemple, des langues des signes. Et la langue nationale ou officielle peut être une langue tueuse très importante vis-à-vis des langues des signes. La langue américaine des signes, par exemple, devient également une langue tueuse par rapport à d'autres langues des signes. Une des raisons pour lesquelles les droits humains linguistiques dans l'éducation et dans le maintien des langues dans le monde est nécessaire, c'est pour se battre contre les crimes contre l'humanité, aussi dans le domaine de l'éducation. Génocide, alors, certains disent que ce terme est trop fort, qu'on ne peut pas l'utiliser ainsi. Lorsqu'on regarde la Convention internationale sur la prévention et la punition du génocide, eh bien, il existe 5 définitions du génocide, 2 sur l'assassinat physique direct, mais 2 autres articles sont pertinents pour nous, notamment l'article 2. C'est transférer par la force les enfants d'un groupe à un autre groupe, et l'autre disposition qui provoque des lésions importantes ou des dommages importants sur le plan psychologique ou physique. Janulf a regardé les minorités en Suède qui avaient une éducation moyenne en suédois. Lorsque les enfants ont eu leurs propres enfants en tant qu'adultes, aucun d'entre eux ne parlait le finlandais à ses enfants, à leurs enfants. Même s'ils n'avaient pas perdu complètement le finlandais, eh bien, leurs enfants étaient forcément transférés au groupe majoritaire, donc au groupe suédois. L'assimilation de telle façon est peut-être considérée comme un génocide. Une autre étude en Zambie et au Malawi a étudié 1500 étudiants, des enfants écoliers plutôt, de la première à la septième classe. Certains n'avaient que très peu de compétences de lecture que dans aucune langue. Au Malawi, les enfants obtiennent leur enseignement dans leur langue maternelle. Et ensuite, ils sont transférés à l'anglais. Ces enfants avaient des résultats un peu meilleurs, même meilleurs dans la langue anglaise. Ils étaient également capables d'écrire dans leur propre langue ou de lire dans leur propre langue. Quelle est donc la conclusion ? Le risque existe qu'une politique consiste à utiliser l'anglais comme langue de véhicule pour l'éducation. Cela peut causer également des dommages psychologiques auprès des enfants. Il existe également des études au Canada, des étudiants inuits qui ont reçu leur éducation en anglais, qui ne parlent couramment ni l'anglais ni leur langue maternelle. Toutefois, il s'agit d'écoliers qui sont parfaitement normaux sur le plan de l'intelligence et terminent l'école à 9 ans, simplement parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir un enseignement dans leur langue maternelle. Un de mes livres, qui comprend 819 pages, mentionne de nombreux exemples de ce type-là. La plupart des éducations des indigènes et des minorités partout dans le monde conduisent au génocide linguistique et culturel, et cela conformément à la définition de la Convention des Nations Unies. Nous avons vu dans ce rapport qu'il existe, c'est un rapport d'experts pour le Forum permanent sur les questions des peuples indigènes. Un rapport s'intitule « Les langues et l'éducation des enfants indigènes ». Ce rapport montre que l'éducation des enfants indigènes ou minoritaires dans une langue dominante constitue une violation des droits de l'homme, notamment du droit à l'éducation. Cela viole également les droits de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, et cette convention a été signé, ratifié par tous les États du monde, sauf deux, la Somalie et les États-Unis. Voici un exemplaire de mon livre. Il a été publié en Inde au mois de février, par contre avec une autre couverture. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Donc, l'éducation par soustraction par la langue, à travers la langue dominante, viole le droit à l'éducation. Cela réduit également les possibilités de développement des enfants et constitue ainsi un frein à la lutte contre la pauvreté. Il s'agit là également d'une étude qu'il a démontré. Cette éducation est organisée de telle façon, malgré les recherches qui existent, malgré les preuves sur le fait que le bilinguisme ou le multilinguisme est favorable. Un nouveau document d'experts intitulé « Les formes de l'éducation des enfants indigènes en tant que crime contre l'humanité », il s'agit là d'un document qui est discuté dans le forum permanent sur les questions des peuples indigènes. indigènes lors de cette session à New York. Là encore, nous avons indiqué que de telles politiques d'éducation sont appliquées malgré le fait qu'on sait qu'il s'agit là d'une façon d'éduquer qui a des effets dévastateurs et qui viole les droits internationaux. Le fait que les États persistent dans cette forme d'éducation peut être considéré comme un génocide linguistique. Une éducation à travers la langue dominante peut provoquer des lésions ou des dommages psychologiques, physiques et autres. Cela peut donc avoir des répercussions négatives sociales sur le plan psychologique, économique et politique, des répercussions négatives sur le plan cognitif, linguistique, mais également politique, économique et sociale par la marginalisation. Parfois également, il s'agit de dommages physiques dans la mesure où les enfants doivent suivre leur éducation dans des établissements fermés, dans des établissements qui sont loin ou dans des internats, par exemple. Le document publié en 2008, comprend également des arguments juridiques qui indiquent que lorsque l'éducation dans la langue maternelle n'existe pas, l'immersion devrait être quelque chose qui doit être revérifié. Il s'agit également de précisément interpréter certains concepts qui se trouvent dans la Convention sur le génocide. De toute façon, il s'agit de ce type d'éducation qui peut être légalement défini comme un crime contre l'humanité. La conclusion, donc, de cette étude, les différentes formes d'éducation par soustraction auxquelles ont des enfants indigènes ont des conséquences négatives, aussi bien mentales que physiques. Il s'agit d'une violation des normes des droits de l'homme et, à nos yeux, également une violation des droits fondamentaux. À nos yeux, le concept de crime contre l'humanité est moins restrictif dans son interprétation que le génocide et peut également être appliqué à ces formes d'éducation. Les conséquences négatives, non seulement pour les langues et les cultures indigènes, mais également pour la vie des peuples indigènes, sont donc claires et cela s'applique également aux minorités. Le concept de crime contre l'humanité est une bonne base pour un développement qui finalement mènera à une stigmatisation. Donc, les droits humains linguistiques dans l'éducation sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants pour éviter les crimes contre l'humanité. Lorsque tous les enfants sont scolarisés, les droits linguistiques dans l'éducation sont nécessaires pour n'importe quel groupe, pour se reproduire en tant que groupe. Les droits humains linguistiques sont nécessaires pour maintenir la diversité culturelle et en tant que facteur médiateur pour la biodiversité sur Terre. Et je dirai encore d'autres choses là-dessus plus tard. Mais le droit le plus fondamental dans les droits humains linguistiques, c'est le droit à une éducation dans sa langue maternelle. Les droits humains linguistiques est donc une façon d'éviter le génocide linguistique, de promouvoir l'intégration, de défendre les peuples contre une assimilation forcée, de promouvoir une politique de l'État positive vis-à-vis des minorités, de promouvoir la garantie de la diversité linguistique, de promouvoir la prévention des conflits et l'autodétermination, bien sûr, pour les minorités et les peuples indigènes. Que sont donc les droits linguistiques, les droits humains linguistiques, donc certains droits linguistiques plus les droits humains. Certains droits linguistiques sont nécessaires pour avoir une vie digne, mais ce sont des droits inaliénables. Cela signifie qu'aucun État, aucun individu et aucun groupe n'a le droit de violer ces droits. Ce sont là donc les droits intrinsèques. Si nous regardons les droits humains linguistiques dans les documents des droits de l'homme, la langue est un des véhicules les plus importants, une des caractéristiques les plus importantes sur la base de laquelle les gens n'ont pas le droit d'être discriminés. D'autres facteurs sont le sexe, la race ou la religion. Toutefois, souvent la langue disparaît dans le paragraphe sur l'éducation. Lorsque nous regardons la Déclaration universelle des droits de l'homme, le paragraphe sur l'éducation ne dit rien, absolument rien, sur la langue. Lorsque nous regardons le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, la langue n'est mentionnée de la même façon que la race, la couleur de la peau, le sexe, la religion, etc., dans un article très général, l'article 2. En ce qui concerne l'article sur l'éducation, on parle tout d'abord de groupes raciaux, ethniques ou religieux, mais il n'est pas question des groupes linguistiques ou de langues. C'est donc quelque chose qui disparaît. Il est dit que l'éducation doit permettre, etc., etc., mais il n'y a pas de groupes linguistiques qui sont mentionnés dans cet article. Des clauses obligatoires sur l'éducation des instruments des droits de l'homme mentionnent parfois les langues, mais surtout de façon à les exclure. Par exemple, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, nationales ou linguistiques. J'ai souligné en bleu et en italique ce qui est positif, ce qui est en rouge, c'est des choses qui sont plutôt des exceptions ou des façons de ne pas appliquer ces droits. Il y a donc ici des mentions très positives. L'État doit protéger, doit encourager, doit promouvoir, etc. Mais c'est assez vague finalement, ce n'est pas très précis comme formulation. C'est un concept extrêmement vague. On peut dire toutes sortes de choses sur l'identité et sur ce que doit faire l'État pour promouvoir cette identité. Dans cette déclaration, il n'y a qu'une partie en rouge. C'est-à-dire l'État doit adopter les mesures adéquates. Que sont des mesures adéquates? Par contre, en ce qui concerne l'éducation et la langue, ils disent non pas l'État doit, mais devrait prendre les mesures adéquates. Partout où c'est possible, alors l'État pourra dire oui, nous avons vraiment essayé, mais ce n'était pas possible. Donc, il est dit par ailleurs, les personnes appartenant à des minorités doivent obtenir des possibilités adéquates. Qu'est-ce que ça veut dire adéquate? Et lorsque nous regardons les derniers instruments du Conseil de l'Europe, la Convention cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne sur les minorités linguistiques et régionales, ce sont les conventions, les meilleures conventions qui existent aujourd'hui. Qu'avons-nous là-dedans? Nous avons ici, lorsqu'il y a une quantité importante, lorsqu'il y a suffisamment de demandes, dans la mesure du possible, dans le cadre du système éducatif. Donc, toutes les mesures de prononciation sont attachées à des conditions, à des possibilités. Et c'est qui fixe ces conditions? Ce sont les minorités? Non, ce sont les États. Nous avons donc toutes les possibilités pour se retirer, pour créer des exceptions, etc. Et cela signifie que toutes ces alternatives et toutes ces possibilités de ne pas appliquer permettent à l'État d'appliquer ces conventions de façon minimaliste en invoquant des difficultés, que le nombre de personnes n'était pas suffisant, que telle ou telle mesure n'était pas justifiée, ou alors que la minorité doit elle-même à ses frais organiser l'éducation dans sa langue. Donc l'éducation en tant que droit humain linguistique et surtout le droit à une éducation dans sa langue maternelle, c'est toujours un droit qui n'existe pas véritablement. Sans ce droit, la minorité dont les enfants vont à l'école obtiennent en général une éducation par soustraction et à travers la langue majoritaire et la langue majoritaire, il est donc obligé de s'assimiler et d'assimiler cette langue. Cette assimilation n'est donc une assimilation par soustraction et non pas par addition. L'assimilation est donc une soustraction, cela signifie être transféré par la force à un autre groupe. L'intégration, par contre, est une addition volontaire et mutuelle d'un apprentissage d'une autre culture ou d'une autre langue. Cela implique un choix. La juriste des droits de l'homme, Katarina Tomaszewski, avant sa mort prématurée, a été rapporteur spécial sur les droits à l'éducation. Il disait que les droits humains internationaux doivent permettre d'apporter un correctif à la loi du marché et doivent permettre également à ôter des étiquettes de prix des peuples et des personnes, des choses nécessaires pour la survie. Fernando Barren du Canada nous a dit que très récemment encore, la plupart des observateurs juridiques pensaient probablement qu'il n'existait aucun droit à l'éducation dans sa propre langue, dans le droit international. Mais si nous regardons le pacte international sur les droits civils et politiques, l'article 27 accorde encore la meilleure protection obligatoire pour les droits linguistiques. Il est dit là que dans les États, lorsqu'il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, ces personnes doivent obtenir le droit de profiter de leur propre culture, de pratiquer leur propre religion ou de pratiquer leur propre langue. Normalement, l'interprétation de cet article est tout d'abord une exclusion de groupes, même si ce sont des citoyens qui ne sont pas reconnus comme minorité par l'État. L'État peut dire « nous n'avons pas de minorité », comme la Turquie, par exemple, fait. C'est-à-dire, des immigrants peuvent également être exclus, qui ne sont pas considérés comme des minorités, ou d'accorder seulement la protection de la discrimination. Ce sont donc des droits soi-disant négatifs, mais ce n'est pas un droit positif de pouvoir utiliser sa propre langue et cela n'impose aucune obligation à l'État. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait élaboré un commentaire en 1994 sur l'article 27 et avait interprété cet article de la façon suivante, qu'il ne s'agissait pas d'une condition qui dépend de la décision de l'État, mais que c'est qu'il existe des critères objectifs. Les Kurdes, par exemple, constituent donc véritablement une minorité. Et il s'agit également de protéger tous les individus qui se trouvent sur le territoire de l'État, que ce soit des immigrants, des réfugiés, peu importe s'ils font partie par une minorité bien spécifique. Que cela signifie-t-il pour les minorités nationales, immigrées ou réfugiées ? Les peuples indigènes devraient également bénéficier de tous les droits des minorités, plus des droits supplémentaires. Les États doivent considérer toutes les minorités nationales ou les réfugiés pour les classifier en tant que minorités. Ils doivent donc les considérer comme des minorités qui sont protégées par l'article 27. Et cela comprend donc le langage des signes. Les minorités doivent avoir des droits positifs et non pas seulement des droits négatifs comme le droit à ne pas être discriminé. Les droits doivent également reconnaître l'existence d'un droit. Les droits doivent également utiliser une possibilité, une obligation positive concernant l'utilisation des langues. Nous avons également certaines recommandations positives sur la façon de le mettre en œuvre, mais n'oubliez pas que ces recommandations ne sont pas obligatoires. Nous avons les recommandations de la Haye concernant les droits à l'éducation des minorités nationales, du Haut Commissaire pour les minorités nationales de l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe. Et ici, il est dit que toutes les minorités doivent obtenir une éducation secondaire, qu'ils ont également le droit à une éducation bilingue, notamment à l'école secondaire. Si aux États-Unis, on enseigne par exemple l'anglais comme deuxième langue, l'enseignant doit être bilingue, connaître aussi bien la langue maternelle que la langue d'éducation des enfants. L'immersion est l'approche par laquelle les enfants sont intégrés dans les classes qui comprennent les enfants de la langue majoritaire. Nous avons ensuite deux autres instruments importants, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes, ainsi que la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes avec handicap. Je ne parlerai pas ici de cette deuxième convention. Il y a là également la mention de la langue dans de nombreux articles, mais malheureusement, ces libellés ne sont pas aussi bons que nous l'avions espéré. D'autres articles sont plus importants dans la Déclaration sur les droits des peuples indigènes. Du point de vue auquel je suis attachée aujourd'hui. Il s'agit donc de l'article 13. Les peuples indigènes ont le droit de revitaliser, utiliser, développer, transmettre aux générations futures leurs histoires, leurs langues, leurs traditions orales, leur philosophie, et désigner et garder leur propre nom pour les communautés, les places et les personnes. L'État doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que ce droit soit garanti et assurer également que les peuples indigènes peuvent comprendre toutes les procédures politiques, légales ou administratives. Donc là également, il y a certaines réserves. Article 14, les peuples indigènes ont le droit d'établir, de contrôler leur système d'éducation conformément à leur façon de transmettre le savoir. Ils ont le droit d'établir leur système d'éducation, mais cela ne signifie pas que l'État a l'obligation de garantir cela en le finançant. C'est de cette façon que ça peut être interprété dans tous les États. Ensuite, les individus appartenant à un peuple indigène, en particulier les enfants, ont le droit de participer à une éducation de l'État. Donc, ils ont accès à une éducation par assimilation s'ils le souhaitent. Et les États doivent, ensemble avec les peuples indigènes, prendre les mesures nécessaires pour que, particulièrement les enfants, y compris ceux qui vivent en dehors de leur communauté, leur garantir l'accès, où c'est possible, à l'éducation dans leur propre culture et dans leur propre langue. Mais où c'est possible? Là encore, les États peuvent dire « Nous avons tout fait, nous avons tout essayé, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. » Donc, dans cette déclaration, c'est une déclaration déclaration à laquelle nous avons travaillé pendant plus de 20 ans, même dans la dernière version. Hélas, les dispositions ne sont pas toujours suffisantes. Mais aussi bien l'éducation des peuples indigènes que des minorités pourrait promouvoir le multilinguisme, par exemple l'éducation au Népal, en Inde, au Sami, en Norvège, en Finlande et d'autres pays. Cela signifie qu'il existe certaines évolutions positives dans certaines parties du monde, par exemple en Inde, au Népal, au Pérou, en Bolivie, au Bangladesh, en Norvège. Je pourrais mentionner d'autres pays, mais aujourd'hui, il existe encore beaucoup de belles paroles et malheureusement, pas suffisamment d'actions, pas suffisamment d'actes et souvent les États sont véritablement hypocrites. Nous avons ici, par exemple, un exemple en Inde. 10 groupes linguistiques obtiennent une éducation dans leur langue maternelle. D'autres projets existent à petite échelle dans d'autres États, dans l'Andhra Pradesh et dans d'autres États d'Inde. Au Népal, il existe un projet, le programme multilingue d'éducation. D'éducation multilingue, pardon, pour tous les étudiants ou les écoliers qui ne sont pas de langue maternelle népalaise. Ils auront donc une éducation bilingue à l'école primaire. Les programmes d'éducation sont planifiés par les membres du village, c'est-à-dire que la langue est quelque chose qui est facile à comprendre et qui vient directement du village. Le projet consiste à élargir cela à tous les enfants de toutes les langues au Népal, et le Népal a plus de 100 langues. Pour les Samis, en Finlande, en Norvège, il existe aussi certains projets, malheureusement pas encore en Suède. Il existe 9 ans d'éducation primaire en Sami. Les résultats, d'ailleurs, sont excellents.
Il y a un rapport important de l'Éthiopie sur 9 des 11 districts. Et le rapport montre clairement qu'à l'âge de l'année 8, 9 et 10, les enfants qui ont eu 8 ans d'éducation dans leur langue maternelle avec l'anglais en tant que sujet ont de meilleurs résultats dans tous les domaines, y compris en anglais, que les étudiants ou les élèves qui n'ont eu que 4 à 6 ans d'éducation en anglais. C'est ainsi qu'on voit que si l'enseignement est fait dans leur langue maternelle, les élèves obtiennent de meilleurs résultats. Il y a également des programmes d'éducation importants pour les sourds. Je ne vais pas trop en parler, mais il y a de bons programmes. Et un d'entre eux, dans mon pays, est un des meilleurs au monde. C'est Marco Jokinen, président de la Fédération mondiale des sourds, qui l'a mis en place. J'ai participé dans l'édition d'un de ce journal. On voit comment l'éducation multilingue doit et peut être organisée. Localisation, à savoir au niveau global et local. L'ex-ministre de l'éducation du Kurdistan pense que, c'est ce qu'il dit, du moins, Abdulaziz Talib, que j'ai interviewé au Kurdistan, il a tenu ses propos. Chaque enfant dans le monde a le droit à l'éducation par le biais de sa langue maternelle. Au Kurdistan, comme vous le savez, ils essayent d'œuvrer dans ce domaine et pas simplement d'en parler. Pour conclure, les pays, y compris ceux qui ont voté, qui ont été contre la déclaration Par exemple, les pays tels que l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis refusent de donner aux peuples autochtones et aux minorités le droit, un droit linguistique. Le droit, par exemple, d'avoir l'éducation dans leur propre langue, dans les écoles publiques gratuites. Et par ce biais, non seulement ils mettent à mal les enfants, mais également eux-mêmes et notre planète. Le manque de droits humains linguistiques a différents effets. Une assimilation forcée, la mort d'autres langues et la diversité linguistique. Une éducation par le biais d'une langue dominante qui soustrait à d'autres effets l'extinction des langues autochtones, entre autres. Et c'est ainsi qu'une biodiversité disparaît également. Et cela met à mal toutes les conditions requises pour la vie humaine sur Terre. Nous savons aujourd'hui que la biodiversité et la diversité linguistique sont liées de manière causale et les connaissances quant à la biodiversité sont ancrées dans les petites langues, notamment les langues autochtones. Aujourd'hui, en tuant ces langues, nous tuons toutes les conditions nécessaires au maintien de la biodiversité. La plupart de la méga-biodiversité est dans les mains des peuples autochtones. La diversité linguistique du monde réside dans les petites langues des peuples autochtones. De nombreuses connaissances détaillées sur le maintien de la biodiversité et codées dans les langues des peuples autochtones. Si nous continuons tel que nous le faisons aujourd'hui, la plupart des langues autochtones du monde vont disparaître d'ici à 2100. Certaines langues telles que le quechua ou d'autres langues plus importantes vont peut-être résister. Colin Baker, dans le livre que j'ai fait circuler, dit que dans la langue de l'écologie, l'écosystème le plus important est celui de la diversité. C'est la diversité qui permet une stabilité qui est nécessaire pour une survie à long terme. Notre réussite sur cette planète est due à la capacité d'adaptation aux différents environnements, des différentes conditions atmosphériques, culturelles. Une telle capacité a découlé de notre diversité. C'est pourquoi la diversité culturelle et linguistique permet de maximiser ses chances, les chances d'une réussite humaine et d'adaptation. La diversité bioculturelle, à savoir la biodiversité et la diversité linguistique ainsi que culturelle, est essentielle pour une survie planétaire. Aujourd'hui, nous tuons cette biodiversité. Et j'ai deux citations pour conclure. Vandana Shiva, les multiples écologiques sont une garantie. Dans toute crise, l'uniformité est la pire des réponses. La diversité et la résilience. Enfin, Diana Ackerman. Nous sommes parmi les rares des rares, nous humains, non pas en tant que nombre, mais parce que notre existence même était si improbable, vu la rapidité de notre évolution. Nous sommes des génies évolutionnaires qui réussissons à transformer le monde plutôt que le comprendre. D'autres animaux n'ont pas pu évoluer suffisamment rapidement pour nous résister. Il est possible que nous disparissions également. Les espérantistes sont ceux qui sont les plus actifs dans le monde. dans cette mesure pour éviter que cela ne se produise. Je vous remercie tous.